France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Au début des années 1930, l'un des jeunes sociologues dispatchés par l'ancien journaliste Robert Park sur le vaste terrain d'enquête qu'offre alors la ville de Chicago, choisit de s'intéresser aux taxi dance halls, des sortes de balles modernes. Paul Cressy, c'est son nom, observe alors minutieusement les interactions de face à face entre jeunes hommes et jeunes femmes célibataires. Ils ont le temps que dure une chanson pour faire connaissance. 30 ans plus tard, un autre jeune sociologue, Pierre Bourdieu, observe dans son Béarn natal les relations sociales des bals ruraux. Il s'intéresse plus précisément aux hommes qui restent assis sur les bancs et ne dansent pas, ceux qui probablement demeureront célibataires. Entré par l'histoire des impôts, dont il est l'un des meilleurs connaisseurs, l'historien américaniste Romain Huret a tenu de longues années un séminaire à propos des célibataires américains, ces old maids ou ces bachelors, qu'on appelle plutôt aujourd'hui des singles. Il en a fait enfin, on l'attendait avec impatience, un livre passionnant. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Et c'est une traductrice qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission, Leslie de Bont, qui viendra nous parler d'un roman assez méconnu en France, paru en version française, dans sa traduction, donc aux éditions Cambourakis, La vie seule, un roman d'une écrivaine britannique, Stella Benson, paru en 1918 et qui fait écho à, de l'autre côté de l'Atlantique, à une partie de l'histoire que raconte Romain Huret dans ce livre « Les oubliés de la Saint-Valentin, des vies à l'ombre du mariage » qui paraît aux éditions La Découverte. Bonjour Romain Huret.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, dont vous êtes par ailleurs le président. Alors comme je le disais, ce livre, on l'attendait depuis longtemps parce qu'on sait que ce séminaire existe depuis de nombreuses années. Il est là enfin et... Je rappelais que vous aviez travaillé sur l'impôt parce qu'on a vraiment le sentiment que c'est par là, en fait, que vous êtes entré dans cet objet du célibat, tout simplement parce que les célibataires ont encore un statut fiscal particulier et qui fut à l'origine de mobilisation de célibataires. C'est comme ça que vous êtes tombé en quelque sorte sur le sujet ?
Oui, je suis tombé un peu par hasard sur le sujet, comme tout le monde, et vous avez cité Bourdieu et d'autres grands noms de la sociologie ou des sciences sociales qui ont travaillé sur le célibat. Donc je les avais dans l'esprit, mais je suis tombé par hasard en travaillant sur les révoltes fiscales aux États-Unis au XXe siècle, sur un mouvement de contestation de célibataires, principalement des femmes, quelques hommes, mais essentiellement des femmes, qui contestaient ce que probablement beaucoup d'auditrices et d'auditeurs connaissent s'ils ne sont pas mariés, à savoir la fameuse pénalité fiscale qui consiste en la chose suivante: si vous êtes marié, vous payez moins d'impôts que si vous êtes célibataire à revenus équivalents. Les taux, les déductions ne sont pas les mêmes. Et curieusement, dans les années 60, des femmes vont protester contre ces différentiels et vont réclamer une égalité de droit. Et je tombe totalement par hasard sur...
Elles envoient des cartes de Saint-Valentin à la Maison Blanche.
Elles envoient des cartes de la Saint-Valentin aux députés, à la Maison Blanche. Elles protestent de manière très drôle. Hein, c'est un mouvement assez... ludique, en expliquant qu'elles ne comprennent pas les raisons de cette pénalité. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'elles vont revendiquer à ce moment-là une égalité de droit, et je vais tomber par hasard, et c'est là d'où vient le livre, hein, sur les lettres qu'elles envoient, et je découvre des vies dont je n'avais aucune idée.
C'est des récits de vie.
Récits de vie... Et elle revendique quelque chose qui est très fort. Elle revendique le fait qu'elles ont fondé une famille. Famille qui n'a rien à voir avec la famille traditionnelle aux États-Unis dans le contexte des années 50-60. Elle revendique une famille en expliquant qu'elles vivent parfois avec leurs parents, avec leurs sœurs, avec leurs frères, avec ce qu'elles appellent des amis, terme qui est difficile pour l'historien que je suis et qui désigne sans doute des relations homosexuelles. Elles ont adopté des enfants, elles ont parfois des enfants illégitimes. Et elle revendique simplement que le fisc prenne en compte cette famille atypique, qui nous semble très banale aujourd'hui. Et c'est par là que je suis rentré. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il en est exactement ? Et je m'étais dit, une fois que j'en aurais fini avec mes impôts, j'en viendrai au célibat. Et comme vous l'avez dit, pendant 10 ans, j'ai tenu séminaire à l'EHESS, et donc voilà le produit de cette recherche.
Lors des séminaires dans lesquels on écrit progressivement des livres, vous disiez au fond ces célibataires sont à la pointe avancée d'une mutation anthropologique, vous l'écrivez comme ça, profonde, qui touche aux structures familiales, à la manière de faire famille aujourd'hui, qui nous semble assez évidente, plurielle. Et au fond, vous considérez ces célibataires, pour reprendre l'expression à Frédéric Keck, comme des sentinelles, au fond, comme des non pas des lanceurs d'alerte, mais des sentinelles, des gens qui sont un petit peu en avance sur leur temps ou qui font bouger les choses. Et donc, en les observant, on peut à travers eux voir des choses beaucoup plus grandes, d'une certaine façon.
On voit des choses beaucoup plus grandes et étonnantes. Hein. Dans le livre, j'ai beaucoup utilisé des photographies. Personnel, hein, des photographies de l'intime, et ces photographies montrent des familles telles qu'elles ont été vues et perçues par ces célibataires, et les images sont étonnantes. On a un couple de deux femmes qui adoptent des enfants dans les années 20, une autre femme qui adopte une enfant et élève sa sœur en même temps. Donc on a ce qu'on appelle aujourd'hui des familles recomposées, hein, des formes de familles qui n'ont rien à voir avec les familles traditionnelles. Mais là où peut-être je ferai un pas de côté par rapport à cette notion de sentinelle ou d'avant-garde, c'est que ces célibataires ne revendiquent pas du tout quoi que ce soit.
Il faut attendre longtemps d'ailleurs
pour
avoir ces mouvements.
Absolument, de revendication du célibat ou de forme alternative à la famille. Jusqu'aux années 50, elles revendiquent et ils revendiquent très peu de choses. Ils ont des vies et des existences très discrètes. Ça fait partie aussi des manières de faire, des manières d'être et d'interagir des célibataires. Et ces familles vont se faire dans l'ombre, vont se faire souvent sans aucun droit très précis, parce que le droit est profondément marqué et imprégné de valeurs matrimoniales. Et donc, elles vont inventer, bricoler des familles atypiques. Et elles vont rarement les revendiquer comme étant une alternative au mariage. Elles vont simplement demander la reconnaissance à la fois d'une égalité juridique et de l'importance civique qu'occupent ces célibataires, puisqu'aussi bien les hommes et les femmes, comme je le montre dans le livre, occupent une place extrêmement importante dans la société états-unienne.
Alors vous avez prononcé le mot matrimonial, qui est le mot juridique du régime matrimonial. Mais en fait, ce qu'on lit derrière ce mot à chaque fois, je pouvais pas m'empêcher en vous lisant, c'est patriarcat. C'est-à-dire que, ça nous amène à voir aussi comment cette situation de célibat concerne d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Que ce sont souvent les femmes qui sont mises en avant dans les représentations du célibat, plus que les hommes. Alors que démographiquement, quand on regarde, et vous publiez très vite un tableau dans le livre, on s'aperçoit que historiquement, massivement, c'est plutôt davantage des hommes que des femmes qui sont concernés par cette situation.
Tout à fait. Hein. Les hommes sont majoritaires sur l'ensemble de la période en termes de pourcentage et jusqu'à aujourd'hui, où ils occupent une part très importante du célibat. Mais vous avez raison, les femmes sont régulièrement accusées et dénoncées pour leur célibat de manière extrêmement virulente. Hein. L'accusation d'être une vieille fille vivant avec ses chats, un crazy cat lady, qu'on a entendu récemment dans la bouche du vice-président actuel, Angie Vance, hein, qui accuse encore ces femmes qui refusent de se marier, qui refusent de procréer, de n'être que des vieilles filles avec des chats.
C'est des figures stéréotypes. On pense à ce qu'on a fait David Lynch dans Twin Peaks avec The Log Lady. Il a remplacé le chat par une bûche, mais au fond, c'est une manière de subvertir cette figure.
Alors, c'est une manière de la subvertir hein, dans le cas de David Lynch, mais les attaques sont très violentes. Je cite le cas de Rachel Carson, que beaucoup connaissent, hein, l'autrice de Silent Spring, Printemps silencieux, qui, lorsqu'elle publie le livre, est accusée d'être une célibataire. Et les élus du Congrès vont jusqu'à dénoncer son obsession pour les pesticides en la reliant à son infertilité. Ils expliquent que c'est parce qu'elle n'a pas été mère, elle n'est pas mariée, qu'elle est autant obsédée par les engrais utilisés dans le monde de l'entreprise. Donc tout au long du siècle, hein, on voit très bien comment ces accusations sont très violentes contre les femmes célibataires. Pour les hommes, la situation est différente, puisque ces hommes appartiennent aux catégories les plus pauvres, hein, les plus précaires, les plus vulnérables de la société aux États-Unis, et ils vont très vite avoir une fonction dans le système capitaliste qui est en train d'émerger à la fin du XIXe siècle. C'est de travailler dans les secteurs les plus mobiles, les plus précaires, les plus difficiles de l'économie, et on va donc les retrouver dans le monde de l'extraction, le monde le secteur agricole, le monde des transports, et ils vont connaître des vies de mobilité, des vies de peu que la littérature et le cinéma ont souvent évoquées, et la chanson aussi. Il y a très souvent ces figures du célibat masculin. Mais paradoxalement, et vous avez raison, ils sont à la fois les plus oubliés des grands récits. On s'y intéresse de moins en moins. Et il y a une raison très simple, c'est qu'ils ont laissé peu de traces. Et dans le récit, dans l'enquête qui a été la mienne, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver la place de ces hommes célibataires. Parce que, à l'inverse, les femmes écrivent beaucoup. Beaucoup sont passées par l'université, vivent dans un monde où le capital culturel et économique est important. Et
donc, les célibataires, les femmes sont plus diplômées que les hommes.
Sont beaucoup plus diplômées. Là, c'est beaucoup plus diplômées jusqu'à aujourd'hui. La distinction est très nette. Le célibat féminin est souvent un choix. Elles souhaitent être célibataires. Beaucoup sont les premières à passer par l'université au début du XXe siècle. Et donc, elles vont revendiquer ce choix du célibat. Et je pense que dans la deuxième partie, on évoquera ce choix de vivre seul et de ne pas se marier. Pour les hommes, c'est souvent beaucoup plus subi. C'est ces itinéraires très fragmentés professionnellement et socialement qui fait que peu à peu, ils ne se marient pas. Ils connaissent des fins de vie extrêmement difficiles.
Vous mentionniez les archives, on va y revenir parce que j'aimerais vous entendre sur la façon dont vous avez travaillé, sur le type de document que vous avez utilisé pour écrire cette histoire. Cette histoire, c'est une histoire américaine, et je me demandais au fond ce qu'il y a de spécifiquement américain dans cette histoire du célibat, c'est-à-dire notamment des choses liées, vous en parliez, à la mobilité, liées à ce territoire, à la construction d'un pays qui nécessite d'ajuster la population et de la répartir géographiquement selon les moments. Ça, c'est des choses qu'on retrouverait sans doute difficilement en Europe où il y a des migrations, bien entendu, internes sur le continent, mais elles ne prennent pas tout à fait la même forme. Qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement américain dans l'histoire des célibataires que vous avez écrit, Romain Hurin ?
Il y a deux choses. La première, je crois, c'est la force de l'ordre matrimonial que j'évoque. Il y a toute une série de dispositifs qui sont mis en œuvre et qui sont très frappants. Et lorsque je les ai évoqués auprès de spécialistes d'autres pays, ils étaient assez surpris du fait qu'il n'y a pas de comparaison possible avec les autres pays. Je prendrai deux exemples très rapidement. Le premier, c'est l'accès à la contraception. Lorsque l'administration et la Cour suprême valident l'accès à la contraception, ils vont insérer dans la loi un dispositif très étonnant qui va limiter cet accès aux seules femmes mariées, en 1965. Et il faudra 7 ans de lutte et de mouvement pour que on supprime cette clause matrimoniale. Donc ce point est étonnant. Il y a également des clauses matrimoniales que je n'ai pas retrouvées en France ou ailleurs. En tout cas, peut-être des gens le savent, mais je n'ai pas vu d'équivalent. Dans les contrats de travail au début du XXe siècle, les femmes institutrices ou infirmières de signer un contrat de travail qui prévoyait leur départ en cas de mariage. De la même manière, ces hommes précaires dont nous avons déjà parlé étaient embauchés parce qu'ils étaient célibataires. Les entreprises ne voulaient pas d'hommes mariés parce qu'ils allaient vouloir revenir ou n'allaient pas être disponibles à plein temps. Donc il y a une vraie structuration que je trouve très forte aux États-Unis de la société, de l'ordre juridique et du marché économique et du capitalisme qui a profondément ancré l'ordre matrimonial et la place des célibataires dans ces dispositifs.
Mais la dimension géographique, parce qu'on pense à je sais pas, à Lucky Luke pour Lonesome Cowboy, enfin, je veux dire, forcément, être pionnier, aller à la conquête de l'Ouest, aller construire des chemins de fer, etc. Enfin, c'est plus facile quand on est seul que de trimballer une famille avec soi.
C'est plus facile au début, ensuite ça va très vite changer. Il y a un moment où la conquête et l'avancée vers l'Ouest et ces secteurs économiques qui font appel à beaucoup d'hommes seuls, dans les mines, la ruée vers l'or, enfin tous ces grands épisodes que nous connaissons, progressivement vont s'effacer au début du XXe siècle, et on va voir les entreprises elles-mêmes préférer installer des couples mariés avec enfants à proximité des espaces forestiers ou agricoles parce qu'ils sont plus facilement dociles, ou en tout cas, ils vont rester sur place, avoir des comportements moins dangereux. Et donc, ce qui est vrai pour le 19e et le début du 20e siècle, finalement, va en quelque sorte se réguler. Ce qui fait que cette population très peu diplômée va avoir beaucoup de mal à trouver sa place à partir des années 30 dans l'espace économique aux États-Unis et jusqu'à aujourd'hui. C'est très difficile quand vous êtes peu diplômé aux États-Unis de trouver votre place. Et quand vous êtes peu diplômé, vous avez du mal aussi à vous marier.
Alors peut-être il faut préciser aussi ce que vous entendez par célibataire, parce qu'il y a un enjeu de définition. Vous rappelez au début du livre que les démographes laissent beaucoup de temps aux gens avant de les classer définitivement dans cette catégorie. Je crois que c'est 50 ans, c'est ça?
Environ 45-50 ans.
En général, pour les démographes, vous avez décidé que on pouvait mettre la barre à 35 ans. Et donc ceux que vous entendez comme célibataire dans ce livre, ce sont des gens qui, à 35 ans, ne se sont pas mariés. C'est ça?
Pour aller vite, c'est cela. Avec deux précisions. La première, j'ai exclu le veuvage et le divorce, qui sont des catégories différentes et qui ont des statuts sociaux, culturels, juridiques extrêmement différents.
Mais qui peut conduire à des situations où les gens vivent seuls et donc ressemblent à bien des égards à celles des célibataires.
Alors, là, vous allez vite et vous faites une équation entre célibat et solitude. Dans le livre, je montre que 80% dans les années 50 des célibataires ne vivent pas seuls. À nouveau, ils vivent avec des membres de leur famille, avec parfois des amis ou d'autres. Donc là, il y a eu aussi, et c'était le deuxième point que je voulais faire, dans la définition qui a été faite du célibat, on a souvent restreint la catégorie, par exemple, à la solitude. Et donc, on s'est intéressé aux personnes jamais mariées qui vivaient seules. Moi, j'ai pris une perspective un peu différente en me demandant simplement avec qui vivaient-ils, qui étaient ces personnes, hommes et femmes, quelle était leur situation précise, est-ce qu'ils cohabitaient avec quelqu'un, est-ce que la cohabitation était autorisée. Bref, ne pas serrer la catégorie au départ, mais la laisser ouverte pour observer les différents types d'expériences rencontrés par ces célibataires.
Une autre preuve de ça, c'est, je me souviens plus de son nom, un sociologue américain a récemment publié un livre sur ce phénomène récent de gens en couple mais qui vivent séparément, seuls, comme étant un phénomène statistiquement assez important dans des grandes métropoles. Il a beaucoup travaillé sur New York en particulier.
Alors, dans les années 60-70, le choix de vivre seul se développe. Et avec ce qui change dans les années 60, c'est moins la révolution culturelle du célibat qui existait jusqu'alors que la place qui est accordée aux autres membres de la famille. Il y aura moins d'enfants par famille. Les couples, les familles vont très vite se disloquer et s'éloigner. Et on demandera moins aux célibataires et souvent à l'une des filles célibataires de s'occuper des parents ou de s'occuper des frères et sœurs handicapés. Les institutions médicales vont se développer et donc ce qui relevait jusqu'alors de la famille va être transféré dans les hôpitaux ou dans les hôpitaux psychiatriques les personnes qui ont des difficultés. Et donc ça va complètement changer, ça va ouvrir des possibilités pour les célibataires de vivre seuls et d'assumer pleinement le choix de leur célibat tout en s'occupant à distance de leurs parents ou d'autres membres de leur famille.
Eric Klinenberg, c'était ça le nom du sociologue
Going Solo.
Going Solo, que je cherchais. Romain Huret, je disais, vous avez travaillé sur des archives différentes. Les textes auxquels vous faisiez référence, les écrits personnels, surtout donc de femmes. Mais aussi, et ça c'est assez original dans votre livre, une place très importante donnée à la photographie vernaculaire, comme on dit, le genre de photographie que Martine Parr adorait collectionner, par exemple. Ces photographies vous ont renseigné beaucoup sur les célibataires.
Elles ont eu un rôle extrêmement important pour écrire le livre, et notamment pour combler la difficulté de ne pas avoir beaucoup d'écrits des célibataires masculins. Et il se trouve que grâce à la révolution numérique, les bibliothèques, les archivistes, et je souhaite leur rendre hommage de manière très forte, publient désormais, aussi bien dans des petites bibliothèques, dans des petites villes aux États-Unis, que des très grandes bibliothèques d'archives, publient des fonds photographiques exceptionnels qui m'ont permis, avec l'aide des archivistes, d'identifier un certain nombre d'hommes et de femmes célibataires avec des photographies qui étaient très intéressantes, puisque si on connaît un peu l'histoire de la photographie et l'importance sociale de la photographie, on sait qu'elle est étroitement liée à la révolution bourgeoise du 19e siècle et la volonté d'afficher la photo de famille. Parmi les rituels au 19e siècle en France ou aux États-Unis, il fallait faire une photo de famille hein, pour montrer sa descendance. Et je me suis posé une question simple, qu'en est-il pour les célibataires?
Comment ils se montrent? Parmi qui, etc.
Donc les photographies qu'on voit dans le livre, il faut les voir comme les photos de famille qu'ils ont voulu faire. Et très souvent, ces photographies étaient insérées dans des journaux intimes ou dans des lettres. Et donc, il y avait une envie de reproduire. Hein, et j'ai une femme du Kansas dans le deuxième chapitre du livre hein, qui... Et je juxtapose à la fois la photo de sa famille, hein, ses parents et ses frères et sœurs, et sa photographie à elle, qui montre le caractère atypique de sa propre famille. Elle adoptera une fille, elle élèvera sa sœur, et donc elle va se déplacer, à cette époque-là, se déplacer était compliqué, elle va se déplacer en train pour aller voir un photographe, pour qu'il prenne la photographie de sa famille atypique. Donc ces photographies ont joué un rôle extrêmement important.
Il y en a plus classiques aussi qui sont issues de la National Farm Administration, par exemple, de ce grand programme photographique.
Oui, c'est des photographies qui sont très intéressantes et j'aurais même aimé qu'elles soient en couverture du livre, mais mon éditeur a souhaité en prendre une autre. Mais ces photographies sont très intéressantes et elles disent bien l'effacement des célibataires, puisqu'on connaît beaucoup de photographies de la Farm Security Administration, notamment celle de Dorothy Lange, qui montre des photographies de femmes mariées, Migrant Mother, la plus célèbre photographie.
Célébrissime, iconique photo.
Iconique. C'est une femme mariée qui attend son mari parti chercher un pneu. Je montre qu'il y a énormément de photographies.
Il faut faire attention.
De célibataires masculins qui sont pris dans des poses étonnantes qui sont des formes de remise en cause des frontières de genre. On voit des hommes en train de coudre, repriser leurs chaussettes ou d'étendre leur linge. Ces photographies vont être rejetées par l'administration Roosevelt, qui ne voudra pas abîmer hein, l'autorité et la force de l'homme marié et de la famille, et qui préférera les mettre de côté.
Alors, dans ce livre, on découvre aussi, vous disiez tout à l'heure qu'il faut attendre les années 60 avec cette mobilisation, par exemple, pour les impôts, pour qu'il y ait des mouvements de revendication, au fond, de droits spécifiques qui arriveront pour les célibataires. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces célibataires n'ont pas des formes d'engagement politique. En fait, ils s'engagent, par exemple, pour le droit des animaux. Ils s'engagent pour certaines causes politiques. Ils décident de donner de l'argent à certaines causes. Ça, c'est un trait marquant de leur relation à la politique.
À la politique, à l'engagement militant, à l'engagement dans les associations, des églises. On voit très souvent les célibataires donner une partie de leur temps, qui est plus important. Hein. J'ai beaucoup de pages sur la question de la temporalité du célibat, et c'est important de prendre en compte cette temporalité singulière. Ils utilisent cette disponibilité, qui est parfois la leur, pour passer du temps dans les associations, et vous l'avez dit, on les retrouve, hein, notamment dans un lieu où je ne pensais pas les trouver, qui est la défense de l'environnement. Très tôt, les femmes célibataires en particulier vont défendre la cause animale.
Ça, c'est le côté sentinelle, quand même. Il y a aussi une espèce d'avant-garde, malgré tout, sur ce type d'activisme.
Alors, sentinelle peut-être, mais il y a surtout un regard, j'ai un chapitre sur le regard très particulier des célibataires sur le monde, et en utilisant des photographies qui ont été prises par des célibataires, je pense qu'il y a une manière de regarder, d'observer le monde, qui est liée hein, à leur statut matrimonial, et à leur place aussi dans la famille, hein, où c'est une place qui est très particulière, et elles vont donc jouer ce rôle un peu d'observation de la famille, et de gardienne de la famille, hein, en particulier pour les femmes, et donc elles regardent avec attention le monde, et elles sont beaucoup plus sensibles hein, à la misère des animaux, à celle des enfants, et donc elles sont très vite engagées dans des grandes causes. Je donne le cas d'une photographe qui est peu connue, hein, mais qui va aller à San Francisco au moment du tremblement de terre au début du XXe siècle. Et là où la plupart des célibataires s'intéressaient à l'effondrement des immeubles et à la difficulté des habitants dans la ville, ce qui va beaucoup la frapper, c'est la mort des chevaux. Et elle a toute une série de photographies hein, très touchantes sur les chevaux qui sont morts. Et on sait que la mort de ces animaux faisait partie des premières causes défendues par le mouvement en faveur des animaux, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et avec son regard très particulier et ce sens aigu de la souffrance et de la souffrance animale, elle en revient avec un corpus photographique très différent d'autres personnes qui vont davantage s'intéresser à d'autres formes de souffrance.
Alors donc, vous êtes servi de ces archives, de ces textes, de ces photographies diverses pour faire cette histoire. Et évidemment, c'est aussi une histoire culturelle. Vous vous êtes servi des représentations des célibataires dans des productions culturelles variées également. Et là, c'est des productions qui peuvent soit représenter, donner à voir des célibataires. Vous citez par exemple Charlot, le personnage de Charlie Chaplin, comme vraiment un célibataire célébrissime. Mais aussi, évidemment, toute la tradition hollywoodienne des comédies du remariage qui vont au contraire insister sur la centralité du cadre matrimonial pour la société américaine.
Et tout à fait, la production culturelle est importante et elle agace souvent les célibataires dans la vraie vie. Ils en ont assez d'être moqués, raillés dans les comédies. Je cite notamment le cas de femmes non mariées qui vont décider d'organiser une fête des vieilles filles tellement elles en ont assez de voir Hollywood se moquer d'elles à longueur de temps dans les films. Et ça se produit après la Seconde Guerre mondiale. Et elles expliquent qu'elles en ont assez parce qu'elles ont joué un rôle tellement important pendant la Seconde Guerre mondiale pour soigner, pour aider, pour travailler dans les usines d'armement, que les voir ainsi moquer quelques temps après devient très pénible et suscite dans la société, dans leur univers professionnel, des moqueries permanentes. Et donc elles en ont assez d'être considérées comme des vieilles filles, et je mets beaucoup de guillemets à vieilles filles.
Donc je disais Charlot, mais il y a Thoreau aussi, par exemple, qui est au fondement d'une certaine conception peut-être du célibat.
Thoreau est une figure importante du livre. Il a beaucoup de descendants dans mon histoire, et notamment, et bien évidemment auprès des célibataires masculins. Et à nouveau, on retrouve ce lien très particulier du célibat et de la nature.
Là, il y a la solitude.
Il y a la solitude, pas toujours, parce que par exemple, les célibataires vont être à l'avant-garde, sentinelle peut-être pour reprendre l'expression que vous avez évoquée, pour développer la randonnée aux États-Unis, qui va devenir très populaire dans les premières décennies du XXe siècle. Et on a beaucoup de célibataires masculins, quelques femmes également, qui vont être pionniers et pionnières en matière de démocratisation de la randonnée. Et la randonnée, c'est solitaire, mais c'est aussi collectif. C'est-à-dire qu'elles vont, ils vont participer à des associations de défense de la randonnée. Il y a là, dans cette expérience de marche, dans cette expérience qui, pour certains, est une expérience mystique, de relation aux autres, une volonté de reproduire la geste de Thoreau dans ce rapport très particulier à la nature et cette fusion de l'homme et des éléments. J'ai retrouvé aussi, sans doute, l'archive la plus incroyable du livre, qui est un journal intime écrit par un coureur de bois qui s'appelle Fred Campbell, qui vivait dans l'Alaska et qui a écrit son journal intime au dos de bouteilles de lait et qui a une expérience mystique avec le paysage qui l'entoure, avec les animaux, qui écrit des poèmes et qui va être en lien avec des poètes de la région et certains deviendront connus ensuite. Donc c'est ce souvenir de Thoreau est très présent et beaucoup revendique tout au long du XXe siècle ce lien particulier des célibataires à la nature.
Ça, c'est la valorisation, le côté positif qui est assez rare dans la culture américaine tout au long du 19e et du 20e siècle, jusqu'à ce que ça se retourne. Parce que au fond, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques dizaines d'années, il y a une forme de retournement avec une acception plus positive de cette situation. Et là, on se met à parler de single, avec le mot qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes, d'ailleurs. Ça renvoie à ce livre qu'on citait d'Eric Klinenberg, Going Solo, par exemple. Il y a une forme de valorisation de l'autonomie, de l'indépendance, du célibat et une forme d'exagération aussi, dites-vous, à bien des égards.
Il y a une inversion du stigmate qu'on connaît assez bien, là où on estimait qu'elles étaient des êtres malheureux, mal dans leur peau. Tout d'un coup, c'est l'inverse. En faisant écho à Bourdieu, je raconte que le disco a peut-être été le moyen de réconcilier tout le monde sur la piste de danse et dans les salles de bal. Finalement, ces hommes célibataires, ces femmes célibataires n'ont plus honte d'aller danser. Au contraire, ils vont en tirer une fierté émancipatrice exceptionnelle, et donc on va avoir du mal à comprendre qui ils sont, parce que entre ces célibataires malheureux d'un côté et celles et ceux qui sont très très heureux de l'autre, j'ai essayé peut-être de trouver un entre-deux, hein, sans forcément célébrer le célibat ou sans forcément le dénigrer. J'ai essayé de rendre compte simplement de la vie de ces hommes et de ces femmes jamais mariés.
Donc, vous l'avez compris, c'est un livre d'histoire dont on parle beaucoup du 19e siècle, du 20e siècle, un petit peu du 21e siècle. J'avais envie de vous poser aussi la question, Romain Huret, de ce qu'est ou ce que veut dire ou ce que représente le célibat dans l'Amérique contemporaine, dans l'Amérique de Trump aujourd'hui. Comment on les regarde, ces célibataires, ou comment eux existent dans l'espace public?
Alors, ils existent beaucoup plus qu'avant, puisqu'ils sont très nombreux. Il y a une explosion du célibat, et au-delà de 35 ans, hein, pour préciser la catégorie, depuis une vingtaine d'années. Donc, ils occupent une place extrêmement importante.
Et en même temps, avoir 35 ans en 2026, c'est pas la même chose qu'avoir 35 ans en 1910.
On est d'accord. Mais ils occupent une place tout à fait importante, socialement, culturellement, politiquement. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les vieilles filles sont toujours autant dénigrées. Et là, on a un retour en arrière quasiment d'un siècle, hein, puisqu'on voit dans l'espace public un dénigrement extrêmement fort.
Du côté des mouvements conservateurs.
Avec le retour des mêmes accusations, hein, contre les vieilles filles à chat, les folles, hein, qui ne veulent pas se marier et qui menacent l'ordre matrimonial et qui menacent l'avenir démographique du pays. C'est ce que dit J.D. Vance, hein. Si ces femmes éduquées ne se marient pas, elles menacent l'ensemble de la société états-unienne et la place des États-Unis dans le monde. Donc des accusations extrêmement fortes. Ce qui est plus étonnant, dans la longue durée, c'est la force symbolique des célibataires masculins qui ont été réintégrés à la rhétorique trumpiste et à la rhétorique conservatrice comme des victimes. Et Trump est extrêmement habile, hein, à faire passer ces célibataires peu diplômés, connaissant des existences précaires et très vulnérables, pour des victimes, des vieilles filles à chat, pour des victimes de ces femmes qui ne veulent pas se marier. Et donc ces célibataires qui sont un des piliers du trumpisme aujourd'hui.
Hein. Ce qu'on appelle les incels.
Il y a des incels qui sont la partie la plus émergée, hein. Mais plus globalement, on a des hommes peu éduqués, qui ont des métiers qui ressemblent de manière assez forte, hein, à ceux du début du XXe siècle, et qui se reconnaissent, hein, dans les propos de Trump, dans la manière dont il met en avant l'absence d'éducation, par exemple, ou la dureté du travail. Il y a là une évolution historique qui est particulièrement intéressante.
On continue à parler de la vie seule des célibataires dans la deuxième partie de l'émission, à propos d'une écrivaine britannique, Stella Benson. Mais avant ça, parce que l'actualité fait parfois bien les choses, ou alors elle a de la suite dans les idées, on va écouter un extrait d'un nouvel album, d'un nouveau groupe britannique. On commence déjà le voyage de l'autre côté de la Manche. Un nouveau groupe publie notamment ce morceau, Indiest Girl at School. Et ce groupe s'appelle The Femcels.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bromeau.
You want to do some singing? I think we need to shout something.
Yeah.
Should we shout? I like your indie life.
You're the indiest girl in school, that's why I can't date you.
Yeah.
Yeah. Okay. I think we'd like... Yeah. How would you shout something? Should you shout something first? Like, shout. Because I've already got a preset idea of how it would go. Go, 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 go.
Being around hot chicks and the sun and surfing and surf's up and those little penguins when they go surfing.
les Femme Cells. On continue à parler de La vie seule. La vie seule, c'est le titre d'un livre d'une écrivaine qu'on connaît mal en France, Stella Benson. Un livre qui a été publié dans sa version française en 2020, paru aux éditions Cambourakis. C'est traduit de l'anglais par Leslie de Bont, qui est avec nous à distance. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature anglaise et vous êtes traductrice aussi. Vous connaissez bien l'œuvre de Stella Benson et de d'écrivaines de la même époque aussi britannique. Peut-être faut-il à la fois présenter ce livre-là, qui est en écho direct avec ce dont on parle avec Romain Huret depuis le début de l'émission, mais du côté britannique, et puis présenter au-delà du livre peut-être l'autrice également.
Oui, en effet, c'est vrai que Stella Benson, c'est une véritable styliste. Elle est souvent à la recherche du bon mot, du pas de côté, du rythme entraînant. Et donc, elle a écrit ce roman délicieux en 1919, La vie seule. Et Benson, elle fait un peu partie de ces nombreuses autrices oubliées que l'on retrouve peu à peu aujourd'hui. Alors, elle est née en 1892, elle vient de l'aristocratie et c'est une enfant fragile avec vraiment une petite santé. Elle a des problèmes respiratoires, elle est malentendante. Et à l'âge adulte, en fait, elle décide de partir s'installer toute seule à Londres pour travailler et soutenir les suffragettes. Elle a aussi la chance de pouvoir voyager seule, d'abord aux États-Unis, dans les Caraïbes ou en Chine. Et en fait, c'est en Chine qu'elle rencontrera son mari, qui est un officier des douanes. Donc, ils vont se marier en 1921 et ensuite, elle va l'accompagner dans ses différentes missions en Chine, à différents endroits, à Hong Kong, en Russie, au Vietnam. Et donc, elle meurt, je crois que c'est en 1933, d'une pneumonie au Vietnam. Alors, elle a eu un petit...
Je vous arrête deux secondes avant de vous laisser continuer, parce que j'ai découvert totalement par hasard que son mari, donc qui va lui survivre, elle meurt jeune, son mari n'est autre que le père de deux personnes qu'on connaît bien quand on s'intéresse aux sciences sociales, deux historiens et un peu anthropologues pour l'autre, Perry et Benedict Anderson.
Oui, en effet. Oui, sacrée famille. Et la famille, justement, a eu la bonne idée de faire don des archives de Stella Benson dans divers centres d'archives et bibliothèques universitaires au Royaume-Uni. Et on se rend compte, en consultant ces archives, qu'elle a eu quand même un petit succès de son vivant, en fait. Elle a été lue et appréciée par Virginia Woolf. Elle a laissé une correspondance qui est très riche avec plusieurs autres autrices du début du XXe siècle. Et son dernier roman, il a même été traduit en français par Georgette Camille en 1931. Et il a eu reçu le prix Femina en 1932. Et donc c'est vraiment un destin qui est particulièrement intéressant et particulièrement riche. Et je pense qu'on retrouve quand même pas mal d'aspects de sa vie dans le roman La vie seule. Alors l'héroïne de La vie seule, elle s'appelle Sarah Brown et les initiales SB sont les mêmes que celles de Stella Benson. Et ce n'est pas un hasard. L'héroïne, elle a aussi une petite santé, elle n'entend pas bien non plus. Elle est elle aussi toute seule à Londres pendant la Première Guerre mondiale. Alors on ne sait pas grand-chose d'elle, hein, si ce n'est qu'elle a un petit boulot administratif. Elle est assez timide, mais le texte dit qu'elle a de bonnes intentions. Et elle fait notamment partie d'un comité de bonnes œuvres, en fait, qui est chapeauté par des ladies qui sont très peu efficaces. Et lors d'une réunion du comité, déboule une sorcière. Et en fait, la sorcière va véritablement changer la vie de Sarah Brown. Elle va notamment l'inviter sur Mitten Island, où se trouve la maison de la vie seule, qui est un endroit vraiment extraordinaire, qui donne donc son nom au titre du roman. C'est une sorte d'auberge pour solitaires qui est gratuite. Et si on y loge, en fait, on s'engage à passer 18 heures sur 24 tout seul. Et c'est vraiment un endroit rigolo qui est hors du temps. Et je pense que c'est là où l'écriture se fait vraiment la plus expérimentale, en fait. Stella Benson, elle réfléchit sur ce qu'est l'hospitalité, l'accueil, le pas vers l'autre. Et puis finalement, elle va montrer que l'expérience subjective de la solitude, ça fluctue. Parfois c'est horrible, mais parfois c'est doux. Et que ça débouche aussi sur d'autres formes de socialisation dont parlait Romain Huret justement dans la première partie.
Alors, ce livre, vous disiez, il paraît en 1919. Vous parliez aussi de sa solitude pendant la Première Guerre mondiale. Cet événement, sans doute plus en Europe qu'aux États-Unis, joue un rôle fondamental dans les formes de destruction, restructuration des familles, au fond, avec beaucoup de femmes veuves, très jeunes par exemple, qui vivent avec leurs frères et sœurs ou surtout avec leurs sœurs. Au fond, on a l'impression que ce livre aussi est une forme de document de cette époque, d'une époque où se reconfigure la famille. Je veux dire, vous mentionniez également le fait que le livre ait été salué par Virginia Woolf. On voit bien, j'ai eu la chance de passer à Charleston, dans la ferme du Sussex, il y a quelques jours, ce groupe autour de Vanessa Bell, de Duncan Grant, de sa sœur, la sœur de Vanessa Bell, donc Virginia Woolf. Tous ces gens vivent ensemble, sans être ensemble, parfois en ayant des relations amoureuses ou pas. Il y a des formes de reconfiguration qui font aussi incroyablement écho à ce qu'a pu décrire Michel Lallemand, exactement pour la même période, autour de Max Weber, par exemple. On a l'impression que là, après ce traumatisme de la Première Guerre mondiale, s'inventent des manières de vivre ensemble ou de vivre seul avec les autres qui sont radicalement nouvelles, en fait.
Ah oui, absolument. Et c'est vrai que ça se retrouve vraiment dans le roman. Alors, le contexte, c'est aussi le début de la première vague féministe, avec le vote des femmes qui est tout récent en Angleterre, hein, puisqu'il date de 1918. Et pendant on va dire depuis la révolution industrielle en Grande-Bretagne, a fortiori dans ce contexte-là de l'immédiat après-guerre, on parle des surplus women, donc les femmes en surnombre, qui sont des femmes célibataires, hein, du fait des 750 000 soldats britanniques qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. Laissant, comme vous l'avez dit, des jeunes fiancées ou des jeunes épouses devenues veuves. Et paradoxalement, j'ai l'impression que le célibat des femmes n'est pas que un sujet polémique, dans le sens où elles sont en surnombre. Et c'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Et pourtant, il y a tellement de choses à faire en Angleterre qu'on va leur confier de plus en plus de tâches et vont vraiment émerger, oui, d'autres formes d'échanges, de vie en commun, de collectif, de rapport à l'autre, qui sont vraiment, enfin, que je trouve vraiment fascinant.
Romain Huret, cette question du surnombre, elle se pose pas aux États-Unis, en fait, parce que il n'y a pas le même impact sur la démographie, probablement, des guerres mondiales, où on en trouve également un écho.
Elle se pose après la Seconde Guerre mondiale, de manière très forte, hein, et dans les mouvements des années 60, par lesquels nous avons commencé l'émission, beaucoup de femmes qui protestent se déclarent comme des veuves de guerre. Et elles expliquent que c'est à cause de la Seconde Guerre mondiale qu'elles n'ont pas trouvé de mari. Et donc, il est injuste. Veuves virtuelles de guerre. Voilà. Elles n'ont jamais été mariées, mais elles auraient pu être mariées s'il n'y avait pas eu la guerre. Et elles racontent des histoires personnelles et intimes, hein, évoquant la perte d'un être aimé pendant la guerre. Et donc, cet impact, hein, du conflit joue aussi aux États-Unis, mais il n'y a pas du tout le même impact pour la Première Guerre mondiale.
Leslie de Bonte, si on revient à Stella Benson. Est-ce que ce roman est assez unique en son genre? Je ne parle pas là de sa forme, de son style, parce que ça, je crois qu'on l'a compris, il est très original. Mais est-ce que vous qui connaissez la littérature de cette époque, des femmes britanniques, il y a d'autres romans qu'on pourrait mettre en relation avec celui-là, former une sorte de constellation de textes?
Question très intéressante, en fait. Déjà, dans l'œuvre de Stella Benson, il y en a un autre qui s'appelle « Voici la fin », où on a un frère et une sœur qui se trouvent un petit peu face au reste du monde. Donc, c'est vrai que c'est un motif qui revient dans son œuvre. Mais je dirais que oui, il y a d'autres mouvements qui sont assez intéressants dans l'histoire littéraire britannique. Moi, je pense notamment, aux littératures écrites par les femmes à cette époque. Il y a beaucoup de solitaires, de célibataires qui ont des destins un peu hors normes parmi leurs héroïnes et qui vont faire, en fait, de cette expérience une opportunité pour explorer d'autres possibles. C'est notamment le cas dans un petit mouvement de récits utopiques féministes qui commence à la fin du 19e siècle, où des femmes vont écrire des mondes sans hommes, ou alors des mondes dans lesquels les rôles sont inversés. Et ce qui est frappant dans ce petit corpus, c'est que leurs écrits, en fait, ils envisagent aussi d'autres modes de relations dans lesquels le couple peut rester important, l'amour peut garder une place de choix, mais il y a aussi d'autres collectifs qui émergent, par exemple pour les tâches domestiques, pour l'éducation des enfants, ou alors pour réfléchir ensemble et agir ensemble sur les problèmes de société. Donc cette petite mouvance du début de la première vague féministe et cette réécriture des textes utopiques, je pense, sont vraiment des textes qui gagneraient à être relus de nos jours.
C'est les ancêtres de La Servante écarlate de l'auteure canadienne Margaret Atwood.
Mais oui, voilà, par exemple.
Romain Huret, qu'en est-il, on en a peu parlé dans la première partie de la littérature américaine, voire, parce que je sais que vous connaissez très bien aussi, de la musique, des chansons américaines. On a parlé du cinéma, mais assez peu de ces deux domaines-là, de la culture populaire. Est-ce qu'il y a à la fois une présence des célibataires comme personnages, mais aussi des œuvres de célibataires qui se revendiquent comme telles dans ces deux domaines-là?
Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui vont tenter de mettre en avant, mais comme je l'ai souvent dit, je trouve très frappant qu'il y ait eu assez peu de revendications du célibat dans l'Amérique du début du siècle. Et ça, c'est une grande particularité, je pense, par rapport à d'autres pays. Des femmes vont écrire des œuvres et ça sera toujours très métaphorique, la place du célibat, la métaphore de l'île. Par exemple, revient souvent de la solitude, mais ça restera assez peu visible dans l'espace public. Le cinéma, ça va être une thématique très présente. La chanson aussi, la figure de ces garçons, hein, de ces boys dans l'Ouest et dans la conquête, vont être extrêmement présents. Et comme vous l'avez dit, cela s'explique aussi par le fait que beaucoup d'artistes décideront de rester célibataires.
Leslie Debon, donc Stella Benson, la vie seule, c'est une manière de découvrir cette autrice. Il y a d'autres textes d'elle qui ont été traduits en français ou c'est le seul?
Alors, il y a eu celui de 1932 en français. Le titre, c'est Toby et l'ange, qui a été traduit par Georgette Camille. Et pour ma part, j'ai eu la chance d'en traduire un autre qui est intitulé Voici la fin, qui est paru il y a quelques années aussi chez Cambourakis.
Donc on trouve tous ces volumes chez Cambourakis?
Oui.
Merci beaucoup. On trouvera les références de ce livre, La vie seule de Stella Benson, donc traduit par vous, Leslie Debon, sur la page de l'émission, ainsi que celle du livre de Romain Huré, Les oubliés de la Saint-Valentin, des vies à l'ombre du mariage, qui paraît aux éditions La Découverte.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Actualité revue aujourd'hui avec, ça n'arrive pas tous les jours, un numéro 100 pour une revue, la revue Raison Politique, qui est une revue de théorie politique, c'est son sous-titre d'ailleurs, qui est édité par les presses de Sciences Po. Et pour ce numéro 100, la revue a choisi de revenir sur un dialogue entre l'histoire et la philosophie, deux disciplines importantes pour la théorie politique, à travers un dialogue particulier entre deux auteurs majeurs de la fin du XXe siècle, en particulier le dialogue entre Michel Foucault et Paul Veyne. Vous êtes avec nous, Carolina Verlangia, au téléphone depuis Lyon, où vous êtes enseignante-chercheuse et vous avez co-dirigé ce dossier avec Michel Sennelard autour de ce dialogue entre Foucault et Veyne. Qu'est-ce qui a conduit la revue à mettre en avant cette relation particulière?
Oui, bonjour pour cette introduction. Juste une petite correction, je ne suis pas enseignante chercheuse, je suis postdoctorante encore donc, à l'Université de Lyon.
Chercheuse, et j'imagine qu'il vous arrive,
oui,
d'enseigner aussi.
C'est ça. Oui, j'enseigne, mais je ne
voilà,
suis pas
donc vous êtes enseignante chercheuse. Non, il n'y a pas de problème.
Donc, ce numéro 100 de la revue Raison Politique, il a la particularité en fait d'être organisé autour d'une archive inédite, donc qui est la transcription d'un séminaire qui a eu lieu dans les bureaux de Michel Foucault au Collège de France le 17 mai 1979. Et donc, il s'agit en fait d'un séminaire restreint, privé en fait, qui réunissait Foucault, l'historien Paul Veyne et seulement trois autres personnes avec lesquelles Foucault avait l'habitude de travailler, donc François Ewald, qui était à l'époque son assistant au Collège de France, Alessandro Fontana, un philosophe qui faisait partie aussi du cercle intellectuel de Foucault, et une historienne dont nous n'avons pas pu identifier la voix, donc identifier les noms. Donc c'est un séminaire très restreint dans lequel on voit Foucault donc discuter très ouvertement avec ses interlocuteurs, et en particulier avec Paul Veyne, sur une série des sujets en fait, qui concernent la méthodologie, l'épistémologie historique, et exprimer très clairement en fait des difficultés et des problèmes qu'il a rencontrés dans son travail, et même remettre en question en fait l'efficacité de certains choix méthodologiques qu'il a fait dans le cadre de ses travaux. Et donc c'est une archive vraiment très riche parce que elle est très différente des autres documents qu'on a pu publier autour de Foucault. Donc, il y a eu ces livres, bien sûr, après les cours au Collège de France, des nouveaux cours qu'on est en train de publier aujourd'hui. Mais la particularité de cette archive, en fait, c'est que c'est un séminaire de travail, en fait. Et donc, on voit Foucault au travail, on voit non pas les grands professeurs devant ses auditeurs, mais en fait un chercheur qui discute, qui dialogue avec son entourage et qui est en fait en train de chercher des solutions à des problèmes méthodologiques qui l'empêchaient d'une certaine manière d'avancer comme il souhaitait dans ses recherches.
C'est le genre de document qui pourrait faire l'objet d'une édition dans la belle collection, je dis ça parce que Romain Huret est là, audiographie, des éditions de l'EHESS qui a pour vocation de publier des conférences ou des choses orales en fait et qui deviennent des documents, des archives formidables. Alors faut peut-être, je vais vous donner l'occasion, Carolina Verlangia, de repréciser qui ils sont. Il s'agit de deux personnes de la même génération en fait. Il y a assez peu d'écart d'âge entre les deux, même si Foucault est légèrement plus âgé, que ça joue un rôle important. Alors, en voyant ce numéro paraître, je me suis souvenu avec émotion, puis on a mis le lien, Aurélie Marseille l'a mis sur la page de la suite dans les idées, le lien vers un certain nombre d'extraits d'une journée d'hommage à Michel Foucault que j'avais eu l'honneur d'animer dans le cadre d'une radio libre de France Culture, un samedi après-midi entier à la Bibliothèque Nationale de France, en 2004. Et j'avais choisi d'ouvrir cette journée d'hommage par une conférence de Paul Vein sur Michel Foucault, qui était un moment très très saisissant dans lequel il faisait le récit de sa rencontre avec Michel Foucault. Carolina Verlangia.
Oui, en fait, la rencontre entre ces deux penseurs, elle est très intéressante à étudier, en fait, parce que on voit que Foucault, de son côté, il fait des hommages à Paul Vein dans ses cours, dans des entretiens. Par exemple, dans les cours de 1979, Foucault il dit qu'il doit beaucoup aux analyses de Paul Vein et qu'il s'inspire du nominalisme historique de Paul Vein, en fait, pour développer ses analyses sur la gouvernementalité libérale. Donc, on voit que Foucault rend hommage à Vein, mais Vein aussi, en fait, il rend hommage à Foucault. Vein, en 78, donc quand il publie la nouvelle édition de son livre « Comment écrire l'histoire », en annexe de ses livres, il publie les textes, un essai très connu qui s'appelle « Foucault révolutionne l'histoire ». Donc, pour Vein, Foucault était un penseur qui remplissait, selon ses mots, les programmes de l'histoire. C'était un vrai historien. C'est très riche d'observer les dialogues entre les deux. Et donc, c'est particulièrement intéressant de les voir discuter, en fait, dans un contexte très détendu, très décontracté, où ils peuvent décortiquer des difficultés méthodologiques et échanger très librement sur ces sujets-là.
Alors, outre ce document d'archives, dans ce numéro 100, dans le dossier de ce numéro 100 de Raison politique, on trouve aussi justement un texte de Michel Sennelard, qui était également présent à cette journée d'hommage à Michel Foucault, d'un texte autour du dialogue Foucault-Vein, question d'historien, question de philosophe.
Tout à fait. Dans ce numéro, donc, nous avons quatre articles qui vont analyser cette archive depuis différents angles. Une archive de Michel Sennelard qui focalise sur cette évolution du dialogue entre Foucault et Vein après la publication de cet essai très célèbre, Foucault révolutionne l'histoire. Les autres articles, chacun qui va apprendre un aspect particulier de cette archive.
Un article de Florence Hulac, « Serais-je anthropologue ?» Point d'interrogation. L'histoire foucaldienne à l'épreuve de son autocritique.
Oui, donc Florence Hulac, Luca Paltrinieri, donc « La praxiologie est-elle vraiment un anti-universalisme ?» Et ensuite, mon article qui s'appelle « Comment écrire l'histoire, les problèmes de l'intelligibilité historique dans les dialogues entre Foucault et Vane ».
Alors peut-être vous pouvez nous dire un peu plus de ce qu'il y a dans votre article. Vous avez choisi de titrer « Comment écrire l'histoire », le livre célébrissime de Paul Vane, grand livre d'épistémologie historique qui s'appelle « Comment on écrit l'histoire ». Qu'est-ce que vous dites dans ce commentaire, Carolina Verlangia?
Oui, tout à fait. J'ai choisi de nommer l'article comme ça parce que, en fait, dans cette discussion entre Foucault et Vane, il y a un point qui ressort, en fait, c'est qu'ils sont en train de discuter sur les conditions de production de savoir, en fait. Donc, comment est-ce qu'on écrit l'histoire? Comment est-ce qu'on produit les savoirs historiques? Comment est-ce que les choix méthodologiques qu'on met en place, en fait, influence la production de ces savoirs. Et ensuite, quel est le rôle de ce savoir? Quel peut être le rôle de ce savoir par rapport au présent, en fait? Et donc, quel est le rôle de l'intellectuel aussi et du savoir qu'il produit par rapport à son présent intellectuel, son présent, en fait, dans l'actualité? Et donc, pour Foucault, le rôle de l'intellectuel était de montrer, en fait, combien les choses sont historiquement fragiles. Et c'est pourquoi, selon lui, l'histoire en particulier, les analyses de type historique, sont envisagées comme un outil, comme il dit, pour casser les évidences. Et c'est là, donc, que sa pensée, elle rejoint celle de Paul Vane, pour qui, en fait, les rôles de l'histoire étaient, donc, de casser les évidences, démontrer que les choses qu'on croit évidentes, nos institutions, notre organisation sociale, nos pratiques sociales, tout ça, ça ne va pas de soi, en fait. Ce sont des constructions historiques et les rôles de l'histoire est de comprendre très précisément, en fait, la formation de nos structures sociales, leur fonctionnement. En fait, en comprenant, en cassant les évidences, en montrant que ça ne va pas de soi, ces savoirs historiques peuvent offrir les conditions pour transformer, en fait, ces structures sociales, pour penser autrement, en fait. Ça peut servir à la construction, en fait, des foyers de résistance où on peut chercher à penser des manières alternatives, en fait, des façons d'être, des pensées et d'agir. Donc, derrière toutes ces réflexions méthodologiques, en fait, il y a vraiment des partis pris éthiques et politique, en fait, qui cherche à mettre en avant les rôles de l'intellectuel, les rôles du savoir historique, qui, en montrant très précisément comment fonctionne la société, donne les conditions, en fait, pour qu'on développe un regard critique et pour penser la transformation de notre présent, en fait.
Alors, quand je lis associer les noms de Michel Foucault et de Paul Vane, j'ai toujours envie d'en ajouter un troisième, celui de Jean-Claude Passeron, parce que les trois ont été très proches à l'École normale supérieure. Paul Vane, Jean-Claude Passeron avait eu l'occasion de le raconter dans un Avoua Nu. Paul Vane était son ami à ce moment-là. Ils ont découvert le travail de Michel Foucault à ce moment-là ensemble, et je pense que les trois n'ont eu de cesse, en fait, d'échanger sur ces questions d'épistémologie. Peut-être, Romain Huret, un mot simple sur Foucault, Vane, comment on écrit l'histoire. Ça fait deux émissions de suite, la semaine dernière avec Patrick Boucheron, cette semaine avec vous, qu'on se pose des questions de la manière dont on écrit l'histoire. C'est encore des références extrêmement précieuses, j'imagine.
Références très précieuses, et ce que je trouve intéressant dans la discussion que vous venez d'avoir, c'est la fabrique du savoir. Il y a des séminaires privés, là, presque confidentiels, où le séminaire que j'ai pu tenir, où qu'on tient encore à le HESS, hein, ces séminaires de recherche qui sont des séminaires libres, où la recherche s'invente, se construit. Et c'est très intéressant.
C'est comme ça qu'on fait
de la recherche. Là, c'est comme ça qu'on fait de la recherche, et il faut vraiment continuer à défendre cette manière de faire.
Merci beaucoup à toutes et à tous. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, avec Aurélie Marsay et Sorge Leroy.